RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis. Nous venons de parler de la place des divorcés remariés dans l'Église catholique. On va s'intéresser, alors toujours dans cette lancée, hein, au rôle des officialités qui existent dans les diocèses, qui permettent notamment d'obtenir la nullité de mariage. Alors si vous êtes concerné là aussi de près ou de loin par cette situation, venez témoigner à l'antenne au 04 72 38 20 23. C'est Mélissa qui est au standard, 04 72 38 20 23. Vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Avec nos chroniqueurs qui chaque matin viennent prendre la parole pour nous parler de moyens d'agir, c'est ce que fera Pascal Gréboval de Kaizen Magazine. Il nous invitera à cultiver la joie en 2022 et il y en a besoin. Bonjour Joseph Domingo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis nos studios à Marseille. Vous êtes official de Marseille. Vous allez bien sûr nous présenter votre fonction, hein, votre rôle pour le diocèse de Marseille. Bonjour Nicolas de Bocard.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Merci. Vous connaissez la maison. Vous êtes official de Lyon. Et puis Sœur Marie Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate ecclésiastique. Voilà trois fonctions en tout cas que vous allez pouvoir nous présenter dans cette émission. Nicolas de Bocard, je commence avec vous. Qu'est-ce qu'un official de Lyon ?
Alors c'est quelqu'un qui est en charge du tribunal ecclésiastique. Donc il est vicaire judiciaire de l'évêque. Nos tribunaux en France sont interdiocésains, donc celui de Lyon comporte 12 diocèses, et nous traitons de ces questions de... Je préfère utiliser, si ça ne vous ennuie pas, le terme d'invalidation ou de reconnaissance d'invalidité de mariage plutôt que d'annulation. On n'annule pas un mariage, on réalise qu'il n'a au fond jamais existé.
C'est la même chose. Et pourtant, on entend beaucoup parler de nullité de mariage.
Oui, parce que c'est le terme habituel qui est dans les mentalités, mais qui est moins juste que l'invalidité ou la reconnaissance de l'invalidité du mariage.
José Domingo, il y a un official dans chaque diocèse, un ou plusieurs d'ailleurs. On dit des officiaux, oui, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et nous aussi, notre tribunal, c'est interdiocésain. Et il y a la région de Marseille, la province ecclésiastique de Marseille, et en plus Monaco, le diocèse de Monaco.
Et ça représente une grosse équipe pour la région ?
Alors, nous sommes obligés à mutualiser les personnels parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent s'occuper de tout. Alors, on est obligé à partager les ressources humaines. Et alors, la plupart des personnes travaillent sur place. Ça fait une équipe d'une quarantaine de personnes à peu près, au moins dans notre officialité.
Et Nicolas de Bocard pour Lyon ?
Alors, on a une cinquantaine, mais une cinquantaine répartie sur ces 12 diocèses. La plupart sont quand même assez centrés sur Lyon et la région lyonnaise. Mais dans tous les diocèses de Clermont-Ferrand, Valence, Grenoble, Annecy, etc., il y a des personnes, avocats ecclésiastiques ou juges, ou qui défendent le lien du mariage et qui vont traiter les causes de ces diocèses particuliers.
Sœur Marie Renaud, je répète, vous êtes avocate ecclésiastique. Là aussi, ça peut paraître compliqué. Je pense que nos auditeurs ne connaissent pas tous, hein, cette notion avocate ecclésiastique. Oui, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce que vous faites ?
C'est un des trois acteurs, hein, du tribunal. Il y a avocat, défenseur du lien et juge.
Oui.
Donc, l'avocat a la mission de recevoir, d'écouter et d'accompagner la personne.
Oui.
Voilà. Et puis, quand nous jugeons, enfin, quand nous trouvons que c'est possible de monter un dossier en reconnaissance d'invalidité de mariage,
oui,
eh ben, nous proposons aux personnes de le faire.
Alors, on parle de nullité de mariage, invalidité de mariage, vous préférez, Nicolas de Bocard. Qui peut la demander, cette invalidité de mariage ?
Alors, tout chrétien qui estime que son mariage est invalide. Alors, je précise les choses. Le tribunal ecclésiastique va, au terme d'une procédure, si c'est le cas, reconnaître que ce mariage est invalide, puisque pour l'Église, le mariage, c'est d'abord un contrat. Et il y a des personnes qui n'ont pas mis en place ce contrat. Soit ils ont triché, soit ils ne sont pas capables de le mettre en place ou pas capables de le vivre. Donc on dit, puisqu'il n'y a pas eu contrat, il n'y a pas eu sacrement et donc il n'y a pas eu mariage.
L'un ou les deux époux doivent demander en même temps cette invalidité?
Non, non, il suffit que l'un le demande. Quand ils sont deux, ça fait partie de la réforme du pape François de 2015-2016, ce qu'on appelle les causes brèves, quand les deux le demandent et que les choses paraissent fondées, c'est une procédure brève qui est beaucoup plus rapide et qui permet à l'évêque du lieu, c'est l'évêque qui va prendre la sentence, de reconnaître l'invalidité de ce mariage.
Joseph Domingo, en tant que prêtre, oui, comment vous accueillez-vous cette demande parfois d'invalidité de mariage? Est-ce que vous l'accueillez avec, bien sûr, bienveillance, certainement? Vous, oui, essayez de ne pas juger?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça peut faire peur, l'idée de tribunal ecclésiastique,
ah oui,
dans
confirme.
L'Église. Le mot tribunal fait peur parfois. Et alors, évidemment, nous suivons une procédure très déterminée, très claire. On est rigoureux, ça sans doute, parce que sinon on ne peut pas arriver à la vérité de ce qui s'est passé. Mais il y a de la rigueur, mais il n'y a pas de la sévérité. C'est-à-dire que les personnes sont accueillies parce que on connaît bien que derrière chaque demande, il y a un drame humain qui a beaucoup de conséquences. Il y a des enfants qui ont subi l'échec du couple. Et alors, on ne veut pas abîmer encore davantage la situation. On ne veut pas faire souffrir les enfants. C'est une démarche en vérité qui regarde le passé, mais aussi, surtout, l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut offrir à ces personnes qu'on est souhaité? Et peut-être que ce n'était pas de leur faute. Et alors, quel est l'avenir pour eux, pour la famille, et offrir une espérance aussi d'un avenir juste et vrai.
Est-ce que parfois, vous, en tant que prêtre, Nicolas de Bocard, vous pouvez aussi recommander la nullité de mariage ou l'invalidité de mariage à des couples qui rencontrent
si
une vraie souffrance, Nicolas de Bocard?
Alors, bien sûr, ça m'est arrivé. Évidemment, la pastorale de la famille accompagne les couples en difficulté, essaye de les aider. Mais il y a un moment où il faut faire la vérité sur son couple et puis peut-être regarder des choses moins avouables ou plus difficiles, mais qui amènent à se poser la question. Est-ce qu'au fond, le mariage que j'ai engagé est valide ou non? Je me souviens de ce vieux monsieur de 80 ans qui m'a dit « toute ma vie a été un enfer ». Et au soir de ma vie, j'aimerais savoir, au fond, si le mariage que j'ai fait était valide. J'en ai pas besoin, c'est évident que je vais pas me remarier, mais au nom de la vérité, j'ai besoin de faire cette démarche pour comprendre et peut-être mourir d'une manière plus apaisée.
On parle de tribunal ecclésiastique, sœur Marie Renaud. Ça veut dire qu'il y a donc des avocats, vous l'avez dit tout à l'heure, des juges également?
Oui.
Oui. Mais qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont des laïcs, des clercs,
Alors,
personnes comme vous?
Oui. Non, ce sont des personnes qui ont été formées aux droits canoniques et qui acceptent d'accompagner d'écouter d'abord les personnes, parce que ce sont des personnes qui sont souvent blessées et puis qui ont envie de revenir dans l'Église. Donc, nous les écoutons d'abord, et puis après, par la suite, bien, nous les accompagnons, et puis nous les aidons à se reconstruire par la suite.
Vous voilà. Dites des personnes qui ont envie de revenir dans l'Église. Alors, on ne va pas refaire la première émission.
C'est une partie, hein.
Oui.
C'est pas tous, hein. Mais il y a des gens qui sont des recommençants, comme on dit.
Ouais. En tout cas, on a entendu la souffrance chez beaucoup de fidèles dans la première partie de cette émission. Comment vous l'entendez, cette souffrance, Joseph Domingo?
Alors, cette souffrance est accueillie avec beaucoup de respect. Et alors, il faut aider la personne pour voir quel est le meilleur moment, même pour entamer la procédure. Parfois, la prudence exige de... Écoute, on va attendre un peu, on vient de se séparer, il faut calmer les choses, être clair, être apaisé pour pouvoir faire une démarche de vérité pour savoir ce qui s'est passé. Alors, compte tenu des circonstances personnelles, psychologiques, de l'âge des enfants, on va s'assurer quel est le moment, si ce qu'il y a des fondements, de raisons à penser à une invalidité. Alors, on va choisir quel est le bon moment, et voilà. Mais dans le temps, on n'est pas pressé. Il faut bien faire les choses.
Marie est avec nous du Puy-de-Dôme au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie.
Bonjour messieurs. Merci pour la qualité de vos émissions qui sont toujours formidables.
On vous écoute.
Voilà. Alors, ce que je disais à la personne que j'ai eue précédemment, c'est que j'ai été, à un moment donné, je me suis posé la question de justement demander la nullité du mariage. Or, moi, j'ai subi des violences conjugales pendant plusieurs années. Le divorce a été demandé par mon ex-conjoint, pas par moi. Et évidemment, ça a été un divorce pour faute, ça a été inéluctable. Et quand je me suis rendu compte du parcours pour demander cette nullité du mariage, j'ai dit non, du coup ben, j'ai renoncé parce que j'ai dit c'est compliqué, j'avais déjà subi une procédure, non, j'ai dit c'est pas possible, et du coup j'en suis restée là.
Alors justement c'est très intéressant ce que vous dites Marie, vous parlez de parcours, quel parcours, qu'est-ce qui vous a freiné?
Tout ce qu'il faut produire comme pièce. Finalement, ce sont des pièces qu'il faut fournir, et des témoignages, et des médecins qui peuvent témoigner de votre maturité. Enfin bon, j'ai dit non, c'est trop, j'ai renoncé, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas eu la force.
Merci Marie pour ce témoignage dont je pense. Donc j'agis, Nicolas de Bocard. C'est un parcours compliqué aussi pour obtenir cette invalidité de mariage.
Non, je pense que ce n'est pas un parcours compliqué. Les choses sont beaucoup simplifiées et un grand nombre d'avocats ecclésiastiques ont été formés et sont vraiment aussi formés à l'écoute, à l'accompagnement, à la disponibilité et sont très disponibles. Ils sont bénévoles dans ce service pour accompagner et aider les gens. C'est évident qu'on ne peut pas reconnaître l'invalidité d'un mariage simplement parce que la personne le demande.
Oui.
Il faut pouvoir prouver que ce mariage était invalide. Donc ça demande d'écouter des témoignages, ça demande éventuellement une expertise. Mais je pense que c'est pas tellement la complexité de la démarche comme telle, c'est le temps favorable pour le faire. Comme pour tout, lorsqu'il y a eu quelque chose de difficile dans une vie, il faut un temps pour s'asseoir, un temps pour le relire, et un temps pour reconstruire, et un temps pour regarder les choses en face, nommer les choses et affronter la vérité. Et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à le faire, elles ont vécu un divorce civil difficile, et puis peut-être un jour, ils se relèveront et diront « mais moi j'ai besoin de savoir, il faut que je comprenne ». Je pense qu'il y a un temps pour tout, voilà.
Joseph Domingo, Nicolas de Bocard vient de parler de cette notion d'expertise, il faut une expertise, et c'est même Marie qui en a parlé d'ailleurs. Quelle expertise pour cette invalidité de mariage, dans cette étape en tout cas du procès?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des causes de l'invalidité du mariage qui ont une origine psychologique. Et alors, c'est une personne qui n'a pas pu évaluer parce qu'il n'y avait pas les compétences ou la capacité de le faire. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Alors, nous ne faisons pas les sentences à la tête des clients, mais il faut l'avis d'un expert qui va nous éclairer. Effectivement, on va dire que cette personne, à ce moment-là, était sous un état de choc post-traumatique, par exemple, où il y avait une immaturité assez grave. Maintenant, la personne a changé. Et alors, il va nous donner des éléments que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas les études pour savoir quel était l'état psychologique. Mais ça arrive seulement dans les causes où ce qui est demandé, c'est l'incapacité psychologique pour le consentement, pour accomplir les obligations essentielles du mariage. Les autres causes n'ont pas besoin d'expertise.
Ouais. Sœur Marie Renaud, ça veut dire que...
Je voudrais ajouter quelque chose.
Allez-y.
Hein.
Oui.
Dans la démarche, nous ne recherchons pas de coupables.
Oui.
Nous étudions la vérité de l'engagement au moment de l'engagement. Quand nous recevons les personnes, nous sommes là pour les écouter et non pour les juger.
Oui.
À aucun moment, nous avons le droit de le faire. Donc que les gens aient la simplicité de dire et de vivre. Parce que c'est un besoin pour eux d'être libres. C'est un besoin de se libérer des blessures ou de de panser les blessures.
Mais dans certains cas, pour reprendre ce que disait José Dominico, vous entourez, Nicolas de Bocard, de psychologues, de psychiatres. Pourquoi l'Église a besoin de tout ça ?
D'abord parce qu'elle n'a pas les compétences dans ce domaine. Oui. La psyché humaine est complexe. J'aimerais juste reprendre ce que disait Sœur Marie, ça me paraît très important. Nous ne sommes pas là pour juger les personnes, mais pour juger de la validité d'un sacrement. Donc, nous regardons si ce sacrement a existé ou non. Et à partir de là, nous regardons effectivement la capacité de ces personnes à avoir mis en place un mariage et pouvoir le vivre d'une manière telle que l'Église le demande à travers les différentes dimensions du mariage que tout le monde connaît, la liberté, l'indissolubilité, l'ouverture à la vie et la fidélité. Mais dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, nous avons besoin du regard de personnes dont c'est la compétence et le métier. Donc des psychologues, des psychanalystes, voire des psychiatres dans certains cas.
Donc ça veut dire que le tribunal ecclésiastique peut refuser une demande d'invalidité de mariage, Sœur Marie Renaud ?
Eh bien, tout dépend. C'est-à-dire que si le tribunal ne trouve pas ne voit pas clair la démarche...
Même si le divorce civil a été accepté et prononcé.
Exactement. Si c'est pas clair pour le tribunal, bon, il y a besoin d'une expertise. Mais après, s'il n'y a pas d'argument pour invalider le mariage, eh bien voilà.
Donc il faut apporter des preuves.
Exactement.
Nicolas de Bocard.
C'est pas parce qu'il y a eu échec qu'il y a invalidité. C'est ça qui est important de bien comprendre. Il y a des personnes qui font la démarche de reconnaissance d'invalidité, mais un peu dans la ligne du divorce civil, un peu pour prouver que l'autre avait tort, se servir du tribunal ecclésiastique pour régler ses comptes. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour une démarche de vérité où on regarde ensemble, dans le temps et la confiance, la mise en place du mariage.
Mais ça peut être brutal quand même de demander des preuves comme ça, des preuves sur des histoires de vie toutes très différentes, parfois avec beaucoup de souffrance, on l'a entendu. Et je vous lirai encore des témoignages parce qu'on en reçoit en masse ce matin, Sœur Marie Renaud.
Dans cette démarche-là, il faudrait une grande paix intérieure. On n'est pas là pour régler ses comptes. Justement, on est là que pour la vérité. Faire la vérité en soi et la vérité avec les autres.
Tribunal ecclésiastique, nullité de mariage, invalidité de mariage. Beaucoup de termes qu'on utilise ce matin. Vous continuez d'apporter vos témoignages en direct dans Je pense donc j'agis. On va tout de suite accueillir Marie-Alix qui habite en Charente-Maritime. Bonjour Marie-Alix.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe et merci de me recevoir pour ce témoignage.
Alors on vous écoute.
Voilà, je suis la maman de 5 enfants. Je suis chrétienne et catholique, pratiquante. Et j'ai vécu 20 ans de mariage à peu près avec mon ex-mari. Et j'ai dû malheureusement recourir à la séparation des problèmes internes au couple que je n'exposerai pas ici. Mais je voulais témoigner que j'ai été très bien accueillie par l'Église dans cette démarche parce que au départ, je demandais une séparation et que petit à petit, suivie par des prêtres et des religieux et des couples qui pouvaient témoigner que mon mariage reposait éventuellement sur une demande de requête en nullité et de reconnaissance en nullité. J'ai donc changé au civil ma demande de séparation pour rentrer dans cette demande de reconnaissance en nullité et donc demander le divorce. Ça, c'était la première chose et je rends grâce à Dieu d'avoir eu sur mon chemin tous ces prêtres et ces religieux et ces couples qui m'ont accompagnée. La deuxième chose, c'est de dire que malgré cette démarche, elle n'était pas faite au départ parce que je quittais mon mari non pas pour aller compter fleurette à un autre, mais parce que c'était une démarche en vérité et pour aller à un voyage intérieur, un petit peu ce que dit Simone Pacaud. Et là, on a bien sûr affaire à de nombreuses démarches peut-être un peu contraignantes de questions qui nous sont posées. Et ces questions, je me suis rendu compte qu'elles étaient fondamentales pour créer ce couple, pour nous aider à vivre ensuite justement de ce sacrement. Viennent ensuite les enfants, j'en ai eu 5. Et c'est pas parce que si l'Église le décide, puisque je suis en cours d'instruction pour cette demande de reconnaissance en nullité, que cette demande soit accordée, que mes enfants seront le fruit de rien. Non, mes enfants sont d'abord les enfants d'un homme et d'une femme, d'un couple biologique qui a pu procréer, et ils sont également avant tout les enfants du bon Dieu par la grâce du baptême qu'ils ont reçu.
Merci.
Ils ne sont en rien fautifs de la séparation de leurs parents, et je voulais apporter mon témoignage là-dessus.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Marie-Alix d'avoir pris le temps d'apporter ce témoignage dans Je pense donc j'agis. Joseph Domingo, peut-être une réaction sur ce parcours.
Oui, alors effectivement c'est une démarche en vérité. Et aussi, si c'est bien fait, c'est un côté thérapeutique. C'est-à-dire que si on le fait au bon moment, si on est aidé par l'avocat, c'est très important le rôle de l'avocat. Il y a un témoignage qui a parlé un peu de la complexité de la cause. Je pense que le rôle de l'avocat, c'est justement prendre un peu sur lui, sur l'avocat, toutes les démarches pour faciliter la chose à la personne qui demande à l'annulité. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vous n'avez à faire que aller au tribunal et répondre aux questions. Et après, éventuellement, c'est une expertise, rencontrer l'expert. Mais c'est très important. Si l'avocat accomplit bien sa mission, tout est beaucoup plus simple pour la personne qui demande la nullité. Et après, ce côté thérapeutique, c'est bon parce que ça permet de relire, une relecture, mais dans la paix, la sérénité, l'équilibre de ce qui s'est passé pour trouver quelles sont vraiment les causes de l'échec. Ça ne sert à rien que le tribunal ait une idée claire de ce qui s'est passé si la personne ne comprend pas pourquoi elle est arrivée à cet échec. Alors c'est important effectivement que la personne fasse une relecture, surtout pour pouvoir rebondir sur de bonnes bases et ne pas reproduire les mêmes erreurs qui ont mené à l'échec les mariages précédents.
Il y a encore beaucoup de choses à dire jusqu'à 11h à propos de ce sujet très important. Bernadette nous rejoindra depuis Monaco dans quelques minutes au 04 72 38 20 23. Vous continuez à composer ce numéro, à nous envoyer vos témoignages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. En attendant, on va tout de suite accueillir notre chroniqueur. Bonjour Pascal Gribeauval.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef au magazine Kaizen. Alors il y a 15 jours, et nos auditeurs s'en souviennent, vous nous invitiez à cultiver la joie en 2022. Mais moi je vous vois aujourd'hui avec une bouteille de vin.
Oui Melchior, je voudrais développer un point dans cette quête à la joie. Comme je l'expliquais, elle peut se cultiver par des choses simples, comme boire un verre avec des amis. Mais modérément. Modérément, c'est précisément le défi du Dry January que l'on peut traduire par le mois de janvier sans alcool. Vous allez me dire, conjuguer joie et sans alcool en France, c'est une hérésie. Pourtant, l'an dernier, 10% des Français ont tenté ce défi. Mais le sens de ce défi, initié en Angleterre en 2013, est surtout une invitation à discerner les moments de consommation plaisir de la consommation réflexe. Et ça permet aussi de rappeler que l'alcool en France entraîne 49 000 décès par an, soit la deuxième raison de la mortalité.
Alors, on est quand même loin de la joie là, Pascal.
C'est vrai, mais j'y viens. Avec ce défi du mois sans alcool, j'ai envie d'inciter les auditrices, les auditeurs, à passer du vin bio ou nature, c'est-à-dire boire moins, mais mieux. Pourquoi mieux ? Parce que les vins nature et bio ont des qualités organoleptiques reconnues.
Organoleptiques, qu'est-ce qu'on entend par là ?
C'est la capacité d'une substance à éveiller les récepteurs sensoriels, en particulier dans la bouche. Dit autrement, à trouver le vin bon, et donc à prendre du plaisir, Melchior, car contrairement à ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années, le vin bio est comparable, voire meilleur en termes de goût au vin classique, dont un des piliers marketing est d'avoir toujours le même goût. Dans une démarche naturelle, le vigneron travaille un sol vivant, et les raisins sont de meilleure qualité, ils peuvent donc faire de meilleurs vins. D'ailleurs, aujourd'hui, les vins bio commencent à gagner des concours face à des vins traditionnels. Outre le plaisir, c'est aussi prendre soin de sa santé, car boire du vin conventionnel, c'est en fait boire un cocktail de produits chimiques explosifs. On peut trouver une cinquantaine de produits chimiques, dont les fameux sulfites, ceux qui permettent la conservation du vin. Or, le vin est riche en sels minéraux, en enzymes, en vitamines. C'est donc un excellent complément alimentaire à condition qu'il soit bio ou naturel. Et en plus de prendre soin de soi, boire du vin bio, c'est aussi prendre soin de la terre, car la vigne ne représente que 4% de la surface agricole en France, mais elle consomme 20% des produits phytosanitaires. Et ces pesticides sont responsables de la raréfaction des abeilles et des oiseaux.
Et comment on les choisit, ces vins bio, Pascal ?
D'abord, lire les étiquettes. Le label Abio indique que le raisin a été cultivé sans pesticides, mais que pour la vinification, on peut ajouter ces sulfites. Les vins en biodynamie sont plus stricts sur l'usage des sulfites. On les reconnaît au label Déméter. Enfin, les vins nature, eux, ne contiennent aucun produit chimique. Ils peuvent surprendre au goût, je vous l'accorde. Pour vous y retrouver, vous pouvez aller chez un caviste spécialisé en vin naturel. Il existe aussi l'application Raisin, comme son bon nom, qui vous informe sur les vins nature. Mais le vin est surtout un vecteur de lien. Alors pourquoi ne pas organiser des soirées dégustation en respectant bien sûr les gestes barrières? Ensuite, vous mutualisez l'achat des vins auprès d'un ou plusieurs vignerons, ce qui vous permettra de faire des économies, car le vin nature est plus cher, il faut le reconnaître, car le travail de la vigne se fait essentiellement à la vin, mais plus cher par rapport à quoi, Melchior? Car on ne compte jamais le coût caché des vins traditionnels avec les maladies des vignerons, des consommateurs et de la perte de la biodiversité. Bref, en 2022, buvons moins, mais buvons mieux. Tentons le vin nature, Melchior.
Et toujours avec modération, et ça, je suis obligé de le dire dans un média. Merci beaucoup, Pascal Grébeauval. On peut aller lire beaucoup d'informations et de solutions écologiques durables sur le site de Kaizen, ce magazine, kaizen-magazine.com. Merci beaucoup, Pascal. Nicolas de Bocard, est-ce que le vin liturgique est un vin bio? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Alors, d'abord, je voulais dire, pour retrouver ou rebondir sur notre sujet, que hier, l'évangile, c'est l'évangile de Cana. Ouais. Cana, c'est le début de la vie apostolique de Jésus et c'est un mariage. Donc, nous sommes en plein dans notre sujet.
Bon. Et le vin liturgique?
Alors, le vin liturgique doit être un vrai vin. Donc, le vin biologique se prête tout à fait à ce que demande l'Église pour célébrer la messe. Il faut que ce soit du vin naturel.
Voilà, eh ben écoutez, parfait, on est en plein dans le sujet. Nous parlons nullité de mariage ce matin, invalidité de mariage, c'est à vous de choisir le meilleur terme avec nos trois invités. Joseph Domingo, vous êtes officiel de Marseille, Nicolas de Bocard, officiel de Lyon, et puis Sœur Marie Renaud, vous êtes avocate ecclésiastique pour le diocèse de Lyon, l'officialité de Lyon. Bernadette est avec nous depuis Monaco. Bonjour Bernadette.
Bonjour, bon, merci beaucoup d'avoir retenu mon appel. Merci aussi pour vos émissions de qualité. Je voulais juste vous témoigner aussi que moi aussi j'ai traversé un gros moment difficile puisque j'ai divorcé il y a 6 ans maintenant, qu'entre-temps je me suis remariée et que j'ai une petite fille. Donc j'ai déjà eu 2 enfants de ma première union et j'ai donc une troisième petite fille. Et je voulais juste vous témoigner que je suis croyante pratiquante, que j'ai eu... l'idée plutôt audacieuse de me marier à l'église malgré le fait que mon mari était pas du tout pratiquant, voire athée, qu'il a fait ça pour me faire plaisir, comme on dit, et que je suis en plein dans la nullité de mariage, puisque là, le dossier a été rendu il y a maintenant plus de presque 2 ans, puisque entre-temps, il y a eu le confinement, les problèmes du Covid, etc., et que ça a pris un temps fou. Et je trouve ça bien dit difficile pour nous qui sommes croyants pratiquants, qui avons une foi qui est là, qui est en nous, et qu'on n'est pas forcément entendu dans notre démarche, surtout quand on sait pourquoi on fait la démarche et pour la raison pour laquelle on sait déjà pourquoi déjà le divorce civil s'est aussi mal passé. Surtout que c'est une question en plus toute bête d'immaturité ou en tout cas de prise de conscience du couple qui était pas du tout à la hauteur et qu'il a fallu que nous aussi, enfin en tout cas moi avec mes filles, je me sorte de ça. Et malgré ça, on n'est pas toujours entendu. Et c'est vraiment très 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 compliqué. Mmh. Et surtout que ça prend un temps fou, on nous demande encore des papiers de l'autre bout du monde, etc. Alors que c'est quelque chose qui est clair, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, puisque j'ai déjà été entendue. Je trouve ça très triste, très dommage, parce que malgré tout, ma conviction, elle est là, et je continue à y croire, etc. Mais c'est très long, c'est très long, et je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de se mettre encore ça sur le dos, surtout quand on sort d'un divorce civil qui a été long, qui a été difficile, qui a été forcément divorcer quand on dit de façon entendu, ce n'est jamais entendu, ce n'est pas possible, et c'est ça qui est dommage, parce que ce qu'on attend, c'est d'être soutenu, c'est d'être entendu, et d'être, quand on a la foi, on dit que la foi déplace les montagnes, mais parfois, c'est long.
Merci Bernadette pour ce témoignage, Nicolas de Bocard, c'est une double peine aussi pour les couples.
Alors d'abord, merci beaucoup à vous de votre témoignage. Alors vous dites, il y a eu des circonstances dont il faut tenir compte, notamment le Covid, qui a beaucoup retardé les dossiers, c'est évident. Je pense que cette expérience un peu douloureuse que vous vivez, il faut comprendre que les tribunaux ecclésiastiques, qui représentent un peu la justice dans l'Église, doivent tenir compte de tout le monde, et notamment de quelque chose de fondamental, qui est le droit à la défense. Donc vous demandez que l'invalidité de votre mariage soit regardée. Peut-être que votre ex-époux, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre dossier évidemment, a un point de vue différent. Il a autant de droits que vous. Il faut qu'on l'écoute, il faut que les témoins puissent s'exprimer, il faut que chacun ait sa place pour trouver une solution juste. Donc vous dites, vous avez la foi et je m'en réjouis. Et pour vous, les choses sont claires, peut-être qu'elles le sont moins pour d'autres. Ce qui explique parfois que certains dossiers prennent un peu de temps justement pour respecter le droit de chacun et faire une vraie démarche de vérité.
Allez, on continue cette émission dans un instant sur RCF. On va marquer une petite pause et vous continuez de nous joindre au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Visage, proposé par Thierry Lyonnais.
Durant la grande sécheresse du début des années 80 au Burkina Faso, Yacoba Sawadogo a choisi de rester et de lutter contre la désertification de son village. En 40 ans, il a fait naître une oasis de 40 hectares de jardins et de forêts. L'anthropologue Damien Deville nous racontera la vie inspirante de Yacoba Sawadogo dans Visage ce lundi à 21h.
Parce que 2022 s'annonce très incertaine, le magazine Conseil des notaires vous aide à rester maître de votre argent et de votre patrimoine tout en protégeant votre famille. Défiscalisation, retraite des indépendants, crédit d'impôt, crypto-monnaie, profitez de toutes les opportunités fiscales et juridiques en suivant les bons conseils des notaires. Et dans ce numéro, pour réussir l'achat ou la vente de votre bien, découvrez tous les prix de l'immobilier dans près de 300 villes de France. Conseil des notaires, l'info familiale et patrimoniale pour tous. 6,90€ chez votre marchand de journaux.
Il est 10h32 sur RCF. Joseph Domingo, je ne vous ai même pas fait réagir et pourtant Bernadette habite à Monaco. Est-ce que ça dépend de votre officialité ?
Oui, tout à fait. Ça dépend de notre officialité, mais dans ces cas-là, c'est l'antenne de Nice qui gère les procès à Monaco. Et alors, je souligne ce qu'il vient de dire le père Nicolas de Bocard. Et effectivement, il faut donner le temps. Malheureusement, il faut être patient. Normalement, les procès ne devaient pas durer plus d'un an. Mais il y a des circonstances extraordinaires, comme celle-ci de la Covid, qui font que ça retardait un peu. Après, il peut avoir aussi des manœuvres un peu d'obstruction à la justice. Si, par exemple, la personne ne veut pas comparaître et fait des actions de divertissement. Mais alors, il faut recentrer la cause, mais on n'a pas le choix. Il faut bien faire les choses jusqu'au bout. Ça comporte effectivement les prix de savoir attendre. Mais on est toujours entendu, mais il faut s'adapter aux circonstances de tout le monde.
En tout cas, on est heureux de savoir qu'on est écouté à Monaco, certainement grâce au DAB+. Allez, on va écouter de la musique tout de suite et vous continuez à nous joindre, comme Bernadette d'ailleurs, au 04 72 38 20 23 pour nous parler de nullité de mariage, d'invalidité de mariage. Vous témoignez également par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already.
If It's Love, c'était une chanson de Sting sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec Joseph Domingo, Nicolas de Bocard et sœur Marie Renaud, nous parlons ce matin de nullité de mariage, d'invalidité de mariage. Vous avez également la parole pour apporter vos nombreux témoignages ce matin au 04 72 38 20 23 par mail également à l'adresse direct@rcf.fr. On a un auditeur qui nous dit hier dimanche, en fin d'homilie, notre curé a invité à la communion les divorcés présents à l'Eucharistie dominicale. C'est la première fois que j'entendais une telle invitation en l'Église. Comment interpréter cette invitation dans l'esprit des recommandations de notre pape François? Nicolas de Bocard, est-ce que ce prêtre a fraudé?
Écoutez, c'est de la responsabilité des pasteurs de voir où en sont les gens, le chemin qu'ils font. C'est vraiment ce chemin auquel le pape François nous invite. Un chemin de discernement, donc des couples qu'il connaît, qu'il a accompagnés. Et je pense, par rapport au sujet de ce matin, par rapport aux reconnaissances d'invalidité de mariage, il arrive que des personnes sont persuadées dans leur fort interne que leur mariage est invalide, mais ne pourront jamais le prouver devant les tribunaux, parce que les témoins sont décédés, parce que ils ont vécu des violences ou des choses difficiles, mais dont personne n'a été témoin sauf eux, donc ça va être un peu difficile d'instruire la procédure et autres. Mais sont absolument convaincus dans leur conscience que ce mariage est invalide. Et je crois que c'est vraiment aller dans le sens de ce que demande le pape François, et le pape Benoît XVI en premier, il avait demandé que dans ces cas-là, l'Église permette, les pasteurs, les évêques, les curés, permettent à ces chrétiens de mener une vie chrétienne authentique, d'avoir l'accès au sacrement, ne pas se remarier, ils sont tenus par un précédent mariage, mais de retrouver une vie ecclésiale plénière. Je crois que c'est vraiment dans le sens de ce que demande l'Église et oui. D'Amoris Laetitia.
Sœur Marie Renaud, c'est vrai qu'on entend beaucoup de témoignages depuis le début de cette émission, des personnes qui souffrent énormément, qui souffrent de la procédure qui parfois peut être longue, alors qu'il y a déjà eu la procédure d'un divorce civil. Pourtant, quand le tribunal reconnaît qu'il y a, comment on dit, qu'il y a invalidité de mariage, on peut dire ça. Ça peut être aussi une vraie libération pour les couples, pour les époux.
Alors déjà, je le constate déjà dès le début.
Oui.
C'est-à-dire que quand ils exposent paisiblement leur cause, Là, il y a déjà une... Il y a déjà une paix qui s'installe.
La parole s'ouvre.
Voilà. Mmh. Et puis après, ce qui est sûr, c'est après la première l'audition.
Oui.
À la déposition de leur vécu. Alors là, vraiment, pour eux, c'est quelque chose de libérateur.
Oui.
Ils ont pu exprimer le fond de leur conscience et le fond de leur expérience. Là, déjà... C'est déjà libre. Et puis après, quand ils ont la décision, hein, quand ils apprennent la décision, là c'est autre chose. C'est une autre reconstruction qu'ils font. Mmh. Voilà.
On a beaucoup aussi de remarques sur le coût du procès. Ça coûte combien, Nicolas de Beaucaire? J'ai l'impression que le coût varie beaucoup en fonction de l'officialité. Et pourquoi d'ailleurs c'est payant? Ça, c'est une autre question importante.
Alors, pour une raison toute simple, c'est que dans les tribunaux ecclésiastiques, il y a des salariés, il y a des personnes, comme c'est un travail administratif, assez complexe, de donner les actes à tout le monde. Il y a quelques salariés qui travaillent à l'officialité, ici, c'est la même chose à Marseille, mais Joseph, que je salue au passage, mon confrère, ne dira pas le contraire. Donc, nous demandons aux personnes une participation qui est de l'ordre de 1 000 euros. Voilà. Mais un certain nombre de personnes ne peuvent pas payer cette somme, ont très peu de moyens, et nous offrons assez volontiers la gratuité pour ceux qui ne peuvent pas payer. C'est une indication, c'est une prise en charge d'une partie des frais, mais sachez que ce 1 000 euros ne représente environ qu'un tiers de la dépense réelle d'une reconnaissance d'invalidité de mariage, puisque ça demande du temps, des personnes, dont la plupart sont bénévoles, mais quelques-unes salariées, parce que c'est un travail à plein temps, et donc il faut, c'est normal, c'est une question de justice là aussi, de que ces personnes aient un juste salaire pour leur travail.
Mmh. 1 000 euros, c'est un tarif unique, José Domingo, ou pour Marseille, c'est...
Non, chaque tribunal a ses propres tarifs.
Ouais.
Dans notre cas, enfin, la moyenne de personnes qui demandent la reconnaissance de la nullité n'est pas aisée, ne sont pas des riches. Hein. Et alors, nous sommes obligés à baisser un peu la tarif, c'est un peu moins. Et concrètement, nous faisons 640 euros pour les dossiers, plus si la personne peut payer l'avocat ecclésiastique, qui sont toujours des bénévoles, mais quand même, comme ça, ici, j'ai beaucoup de temps, on leur donne quelque chose, que c'est 183 euros pour l'avocat. Mmh. Mais toujours, s'il n'y a pas de revenus, on peut être demandé au tribunal assistance judiciaire. Mmh. Mais on ne veut pas exclure de ces procès les personnes qui n'ont pas les moyens. Mmh.
Michel nous appelle de Nancy. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Écoutez, moi, j'ai fait une annulation de mariage en 2014, 40 ans après mon mariage, puisque je me suis mariée en 74, j'ai très vite divorcé. C'était plutôt un contexte social à l'époque, j'étais enceinte avant de me marier, donc on était un peu obligés. Et j'avoue que c'est lors d'une confession que c'est un prêtre qui a vu ma souffrance intérieure et qui m'a proposé lui-même d'aller voir justement à l'officialité un juge pour expliquer mon cas. Et mon dossier a été accepté assez rapidement. J'ai dû prendre un avocat qui était désigné par l'officialité de Nancy. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire ces démarches, j'ai eu un poids énorme qui s'est libéré de moi. Il y avait une telle souffrance depuis mon mariage et une telle sensation d'injustice par rapport à un engagement que je n'avais pas vraiment voulu et désiré du fond de mon cœur, que ça a été vraiment une très très grande libération de vivre tout cela pendant la démarche avec l'avocat, de construire un dossier, de présenter des témoignages. Mais ça a duré, je crois, sur un an et demi, deux ans, je ne sais plus à peu près. J'ai payé aussi à peu près 600 à 800 euros, je ne sais plus exactement. Mais pour moi, ça a été une vraie, vraie libération. Et c'est à partir de là, je crois, que j'ai reconstruit ma vie de foi. Voilà. Ma demande, c'était vraiment une démarche de foi parce que je supportais plus d'avoir été mariée. Je suis toujours seule, célibataire, ou divorcée, mais je n'ai pas d'autres compagnons. Mais c'était vraiment pour moi une démarche de foi. Et ça m'a aidé à me reconstruire au sein de l'Église.
Oui. Merci Michel pour ce témoignage et d'avoir parlé de votre expérience comme ça. Sœur Marie Renaud, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure.
Ouais. Et l'accompagnement d'une personne demande beaucoup de rencontres pour mettre la personne à l'aise et puis pour qu'elle puisse s'ouvrir.
Je vous lis un message d'Evelyne qui semble un peu en colère. Je me permets quand même de vous le lire. J'écoute avec intérêt l'émission. Je fais partie des pestiférés de l'Église. À la souffrance d'une trahison, adultère et plus, s'ajoute la souffrance du rejet. Je ne retrouve pas grand-chose de l'enseignement du Christ dans la Bible. Des démarches à faire invalider un mariage ne me paraissent pas une aide. Où est la main du Christ qui accueille, sans me demander si j'ai mes papiers en règle, à savoir mariage, etc. N'y a-t-il plus de place pour les pauvres, les opprimés, les exclus ? Nicolas de Bocard, qu'est-ce que vous pouvez dire après ce témoignage d'Evelyne, et je vous dis de manière très transparente qu'on reçoit beaucoup de témoignages comme ça ce matin.
Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans l'Église, c'est de ne jamais séparer la charité et la vérité. Il y a un certain nombre d'adages qui prennent les deux ensemble. La vérité sans la charité, je suis d'accord, c'est insupportable. Mais la charité sans la vérité, elle est délétère, elle ne va pas jusqu'au bout. Dans l'Église, il faut mener les deux, même si parfois c'est difficile. C'est un chemin peut-être ardu, mais c'est à ce prix-là que la charité peut vraiment rayonner et donner tout son fruit.
Pour vous, il ne faudrait pas forcément mettre à jour tout ça.
Mais on le met à jour tout le temps, dans tous les dossiers.
Oui.
On essaie justement, dans la charité, de rechercher la vérité.
Joseph Domingo, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce témoignage d'Evelyne ?
Oui, alors effectivement, dans un procès comme celui-ci, qui concerne toute la personne, il y a plein d'éléments qui sont connexes. C'est-à-dire, nous devons juger sur la validité ou pas de ce mariage, mais à côté de ça, il y a plein d'histoires, de blessures, de comportements qui ont été inadaptés, qui ont été même parfois méchants. Alors, nous ne pouvons pas statuer sur tout cela. Nous devons statuer seulement sur est-ce qu'au moment de se marier, il y a eu le minimum nécessaire pour constituer le mariage et en conséquence les sacrements ou pas. Mais à côté de ça, il y a plein d'histoires. Évidemment, les personnes parfois ne sont pas contentes parce qu'on n'a pas résolu tout entièrement les problèmes. Nous ne devons que répondre à la question est-ce que le mariage a été valide ou pas. Oui. Après, il y a plein de choses qu'on ne peut pas rentrer parce que le respect aussi de l'intimité de chaque personne.
Alors si on comprend bien, il y a une vraie question de discernement, de chemin spirituel. Marie-Paul nous dit d'ailleurs, il me paraît très inégal de demander un tel cheminement spirituel à des personnes vivant ces souffrances, plus qu'à ceux qui fréquentent l'Église de manière habituelle, sans qu'on leur demande rien. Pour moi, c'est encore un signe de l'hypocrisie de l'Église qu'il faudrait bannir à tout prix. Alors, n'y voyez pas une attaque de ma part de vous lire ces messages, mais voilà, c'est aussi peut-être révélateur d'une grande souffrance. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette émission ce matin. Sœur Marie Renaud, qu'est-ce que vous pouvez dire là aussi ? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice qui est partagé par beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles ?
Déjà, je déplore cette situation si les gens n'ont pas été, ne se sentent pas compris. Mais il faut reconnaître que dans cette démarche, comme dit le père Domingo, il y a beaucoup de blessures, mais nous ne sommes pas là pour juger les personnes, ni rechercher des coupables. Souvent, les personnes qui ne se sentent pas comprises en général, ce sont il y a des rancœurs. Alors, il faut s'apaiser d'abord avant de pouvoir avancer.
Nicolas de Bocard.
Et puis ne pas juger les autres en disant, on demande dans ces procédures aux gens de de regarder le fond de leur conscience. On ne demande pas à tous les pratiquants tous les dimanches qui vont. Et, on n'a pas à le demander, on n'a pas à juger. Et dans nos procédures, on ne juge pas les personnes. Simplement, on leur demande de faire la vérité sur un sacrement. Je prends un parallélisme dans d'autres procédures que nous en l'officialité. Ce n'est pas l'objet de l'émission.
Oui, oui.
Mais les prêtres qui demandent à quitter le sacerdoce ou les prêtres qui ont malheureusement commis des délits, on en a suffisamment parlé ces derniers temps, on leur demande aussi ce travail de relecture, voilà, parce qu'il y a un délit, parce qu'ils demandent, mais sinon on ne va pas le demander à tout le monde. Notre conscience nous juge, mais ce n'est pas aux autres de juger notre conscience. Nous, on regarde les faits.
Un message de Marie-Pierre. Je voudrais savoir si la démarche de demande de nullité de mariage peut constituer d'abord une démarche de discernement sur la validité de ce qui est vécu, car ce que je cherche, c'est de discerner juste pour comprendre. Joseph Domingo ?
Oui, effectivement, c'est très important de discerner. Et pas seulement de ce que c'est le mariage de manière abstraite, de connecter de la réalité, mais dans les concrets. Qu'est-ce que ça comporte, le fait d'être marié, dans les détails, hein, non, de la vie de la personne. Évidemment, s'il n'y a pas de discernement suffisant, il y a plein de personnes qui ont pu avoir des troubles de la personnalité ou même des maladies mentales qui vont affecter l'intelligence, le discernement. Et alors, effectivement, s'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas le mariage. Parce que la personne ne sait pas à quoi elle s'engage. Et alors, toutes ces démarches, effectivement, peuvent apporter un peu de lumière pour savoir s'il y a eu le minimum. Parfois, on peut manquer de discernement, même s'il n'y a pas de troubles, hein, ou des maladies mentales. Mais simplement, il peut y avoir une immaturité très, un peu grave, non, que la personne n'a pas réalisé de ce qu'elle faisait. Hein.
Patrick nous dit « Plaqué par mon épouse dans des conditions dramatiques, j'ai refait ma vie et j'ai eu 4 enfants. J'ai présenté 4 fois un dossier en reconnaissance en nullité, le premier en 1976 et le dernier en 2015. Ma persévérance a été récompensée puisque je l'ai enfin obtenue. Il ne faut jamais lâcher, même si la démarche est très douloureuse. » Ça veut dire, Nicolas de Bocquart, qu'on peut présenter plusieurs fois une demande de nullité de mariage ?
Alors, une fois qu'un tribunal a jugé et que ça a été confirmé en appel, s'il y a eu appel, on ne peut plus revenir dessus. Mais on peut attaquer la validité de son mariage sur plusieurs chefs. Il y a 2 grandes familles de reconnaissance de validité de mariage. Il y a tout ce qu'on appelle les exclusions. Quelqu'un qui volontairement exclut le fait d'avoir des enfants ou d'être fidèle. Et quand on arrive à prouver qu'au moment du mariage, il y avait cette exclusion ou cette simulation du mariage, c'est évident que le mariage est invalide. La plupart du temps, nous reconnaissons les invalidités de mariage pour une autre raison qu'on appelle les incapacités consensuelles. C'est-à-dire des personnes, comme le disait tout à l'heure Joseph Domingo, qui ont une difficulté interne à mettre en place un mariage. Ils ont une fragilité, une pathologie, une immaturité ou une fragilité intrinsèque qui font que ils ne peuvent ni mettre en place ce mariage, ni le vivre. Et c'est là où nous avons besoin d'un regard extérieur, et c'est là où nous avons besoin d'aide de psychiatres, de psychanalystes, pour regarder ensemble la validité de ce mariage. Et à partir de ces 2 cas particuliers, nous reconnaissons ou non la validité du mariage. Donc un mariage peut être attaqué sous différents angles, voilà. Mais il va falloir pouvoir le prouver.
Alors, j'aime bien les chiffres, moi. Les auditeurs le savent, je crois. Est-ce qu'on a des données sur le nombre de nullités d'invalidité de mariage acceptées en France, Nicolas de Bocquart ? Est-ce qu'on a quelques données ? Je crois que c'était de l'ordre de 400 en 2013. Ça remonte alors qu'on était à 3000 en Italie.
Oui.
Qu'en est-il en France en 2021 ?
Alors, en France, sur la totalité des officialités, il y a à peu près 12 d'officialités. Je pense qu'on doit être autour de 500. Il y a moins de mariages, les gens se marient moins, mais peut-être que les mariages sont plus fragiles actuellement. Et pourtant, les préparations sont beaucoup développées, les préparations au mariage religieux sont beaucoup développées, sont beaucoup structurées, mais peut-être que les gens sont plus fragiles. On tourne autour de 400-500 reconnaissances d'invalidité de mariage chaque année en France.
En France. Et ça a un petit peu évolué donc depuis 2013. Joseph Domingo, vous, ça représente combien juste pour votre officialité ?
Autour entre 50 et 60 nullités par an, nous reconnaissons.
Et pour combien de demandes ?
C'est presque 80, plus de 90%. Hein. La plupart de demandes sont la nullité, la validité est reconnue.
Ah oui.
Mais pourquoi? Pourquoi? Attention, c'est pas la déclaration d'invalidité de mariage, c'est pas le divorce catholique. Simplement, ce qu'on fait, c'est avant de commencer d'entamer, de commencer les procès, on va faire une sorte de filtre. C'est-à-dire qu'il faut voir s'il y a le minimum. Effectivement, il y a un fondement dans la demande de reconnaissance de nullité. Et s'il y a un fondement, on va creuser. Et la plupart des fois, on trouve. Hein. Mmh. Mais si, a priori, depuis le début, on ne voit rien, on ne va pas faire tout un procès avec tout l'investissement de temps des personnes pour aboutir à aucune conclusion.
Sœur Marie Renaud, qu'est-ce qui est invoqué lors d'un procès, d'un tribunal? Vous avez parlé, je crois, de cette notion de maturité tout à l'heure.
Oui, le manque de liberté interne. Il y a aussi le dol, c'est-à-dire une tromperie sur
Nicolas de Bocard.
Voilà, ce qui est important, c'est que les avocats qui reçoivent ces personnes font un premier filtre, comme le dit Joseph Domingo. Nous aussi, on tourne à peu près autour des mêmes chiffres, mais pratiquement tous les dossiers que nous arrivons, qui nous arrivent, on fait la procédure. Pourquoi ? Parce qu'au préalable, il y a eu un prisme chez les avocats ecclésiastiques qui ont vu qu'il y avait des raisons de présenter ce dossier. Donc la plupart des dossiers qui nous arrivent, la demande est traitée et la reconnaissance d'invalidité est reconnue dans à peu près 85-90% des cas.
Pourquoi un dossier nullité est transmis à la ROTE du Vatican? La ROTE, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas comment on prononce.
Alors on dit la ROTE.
Alors, bah, j'avais raison.
C'est un droit de tout chrétien de faire appel, non pas aux tribunaux ecclésiastiques dont ils dépendent, mais faire appel directement au tribunal de la ROTE. Et il faut savoir aussi qu'en troisième instance, la ROTE est le tribunal d'appel habituel. Donc on peut faire appel à la ROTE en deuxième, systématiquement en troisième instance. Voilà, quand une cause, il y a des appels successifs, voilà, c'est une possibilité.
Ça part loin quand même, non? Ça paraît quand même hyper complexe
Comme tout système juridique, un système juridique, pour que ça tienne la route, il faut qu'il y ait une sécurité juridique. C'est-à-dire que les personnes aient la possibilité de faire appel, de redemander une qualification, de faire une procédure de nullité de la sentence. Tout est possible, comme dans tout système juridique civil.
Ça prend combien de temps en moyenne de reconnaître une nullité de mariage ou de ne pas la reconnaître d'ailleurs?
Là, aujourd'hui, c'est un an.
Oui.
Deux ans, trois ans.
Maximum
six, oui.
Ouais. Trois ans s'il y a eu des
appels.
Voilà, s'il y a eu des causes incidentes, s'il y a eu des difficultés. Mmh. Mais c'est vraiment un an. Et quand c'est une procédure brève, c'est 3 à 6 mois. Voilà, parce que le pape a accéléré les procédures et a demandé que les procédures brèves soient aussi instruites de manière beaucoup plus rapide.
Donc ça bouge.
Ça bouge, bien sûr. Ça bouge, oui.
Ah bah écoutez.
Oui. Là, aujourd'hui, toute personne peut faire sa demande là où il se trouve, auprès de l'officialité de son lieu de résidence.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On a fait le point, c'était très intéressant. Et puis, merci également pour vos très nombreux témoignages ce matin. Alors, on n'a pas pu, bien sûr, tous vous passer ou tous vous lire, mais au moins, on sait que c'est quelque chose qui vous concerne énormément. Merci à toutes et tous. Merci Nicolas de Bocard d'avoir participé. Vous êtes l'officiel de Lyon. Joseph Domingo, merci d'avoir été avec nous depuis nos studios à Marseille. Vous êtes officiel de Marseille. Et puis Sœur Marie Renaud, merci également à vous. Vous êtes avocate ecclésiastique. C'est la fin de cette émission. Merci à Fred, Hugo, Mélissa qui ont permis la réalisation. On se retrouve demain de 9h à 11h. On parlera du prix Croire au cinéma avec Stéphanie Gallet. Bonne journée à tous.